débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. C'est aujourd'hui l'ouverture du synode des évêques sur la famille. Alors des questions sur la morale, sur les relations homosexuelles, la contraception ou l'accès à la communion des personnes divorcées, remariées seront évoquées et probablement débattues avec vigueur. Les autorités de l'Église sont plutôt conservatrices concernant les mœurs, mais le pape a fait des déclarations qui peuvent laisser penser que des évolutions sont possibles. Alors la notion de famille chez les catholiques est-elle modernisée par le pape François ? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Le père Pierre-Yves Péqueux est secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Bonsoir à vous, Pierre-Yves Péqueux.
Bonsoir.
Et puis Martin Brésis est journaliste au Monde des Religions. Monde des Religions dont le dernier numéro a pour thème les sages de notre temps. Bonsoir Martin Brésis.
Bonsoir.
Alors, à quoi doit-on s'attendre ? À quoi ce synode peut-il aboutir ? Une rénovation de la vision de la famille par les autorités catholiques, une révolution ou à quelques aménagements de détail ? Pierre-Yves Péqueux.
Je crois qu'il faut s'attendre à aucune révolution. Mmh. Il faut s'attendre vraisemblablement d'abord à une affirmation de la foi dans la famille. C'est vraisemblablement le point sur lequel le pape est très sensible. Il croit en la famille. Lui-même est quelqu'un qui connaît les familles et qui a su, au sein de son pays, être proche de familles, et particulièrement de familles en souffrance. Mmh. Et c'est peut-être l'autre aspect, c'est que il croit en la famille, mais il croit aussi que cette famille a besoin, aujourd'hui, d'être réconciliée avec elle-même, d'être dynamisée.
D'accord, alors, mais quand on parle de la famille, on peut se demander quelle famille ? On parle d'intenses discussions en cours, et jusqu'où peut-on aller quand on est chrétien sur des points qui sont contentieux pour l'instant, comme les relations homosexuelles, comme la contraception, Martin Brésis.
La question qui se pose, c'est pas jusqu'où peut-on aller quand on est chrétien, a fortiori quand on est catholique, puisque les catholiques, on sait jusqu'où ils vont, et vous parliez de révolution, les révolutions, les catholiques l'ont faite, si vous voulez. Et c'est là tout l'enjeu, c'est qu'il y a une distorsion entre le dogme catholique, par exemple sur les questions de la contraception artificielle étant interdite, l'avortement, le droit à l'avortement étant toujours interdit, la question du divorce où le pape là vient de réaffirmer que voilà c'était pas forcément la bonne voie à suivre. Et on sait que si vous, par exemple, vous faites des sondages en France sur 90% des catholiques pratiquants ne suivent pas du tout l'Église sur ces questions-là. Donc, si vous voulez, il y a une révolution de fait chez les catholiques sur certains sujets, sur la question de l'homosexualité, par exemple sur le mariage pour tous. Il y avait un sur deux à peu près.
C'est pas la même chose. L'homosexualité, justement.
Oui.
Parlons-en.
Oui, mais si vous voulez, sur ces questions-là, l'enjeu, le pape est devant deux principes qui sont ceux qui guident sa vocation de pape. C'est-à-dire que d'une part, il y a le dogme. En tant que chef de l'Église, il est gardien du dogme, mais dans l'Église catholique, c'est important. Mmh. Il y a une véritable autorité de la parole papale, pontificale. C'est lui qui est chargé de préserver la tradition, le dogme. Mais d'un autre côté, et ça, c'est un peu la nouveauté avec François, c'est qu'il considère sa fonction de pape de plus en plus, et en tout cas fortement affirmé, comme celle d'un pasteur. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le dogme, mais de l'autre côté, et c'est ce que disait le père Péqueux tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a, quand il parlait des souffrances des familles, c'est qu'il y a une réalité. Mmh. Et toute la difficulté étant de faire avec la distorsion qu'il peut y avoir, et par exemple, ce que je viens de vous dire est une distorsion réelle entre le dogme et la réalité, comment lui va-t-il faire avec cette réalité ? C'est-à-dire, s'il suit trop la réalité et ce que vivent certains catholiques, il va totalement bouleverser le dogme. Mmh. C'est un bouleversement de l'institution avec tous les dégâts que ça peut avoir d'à côté. S'il continue à réaffirmer de façon très ferme et autoritaire le dogme, comme avait tendance à le faire son prédécesseur Benoît XVI, il va se retrouver avec une Église de plus en plus refermée sur elle-même. L'enjeu, il est là.
Alors, on reviendra sur le pape expert en diplomatie qui ne veut, semble-t-il, fâcher personne. Je voudrais quand même vous interroger, Pierre-Yves Péqueux, sur cette notion de reconnaissance des relations homosexuelles vivant en couple stable et fidèle. On en parle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On en parle. Je pense qu'on respecte. Mais ça ne veut pas dire qu'on approuve. Mmh. Je crois que l'Église respecte les personnes et tient à respecter les personnes, mais n'est pas arrivée à se poser avec une affirmation de reconnaissance de mariage.
En tout cas, l'évêque polonais Chałęsa a pris la mesure du chemin qui reste à parcourir.
Tout à fait.
Bon.
Mais est-ce que c'est un chemin à parcourir ou est-ce que, à travers des chemins différents, des personnes sont aussi aimables, capables d'être accompagnées, capables d'être respectées? Je crois que il y a une invitation à la fois reconnaître la situation homme et femme et le mariage dès l'origine, c'est tout le sens de la Bible, et aussi reconnaître ceux qui vivent des situations différentes en les respectant, sans nommer, et en particulier sans nommer à travers le mot mariage.
Alors, François a fait l'éloge d'une famille, et je reprends un petit peu le terme que vous avez évoqué tout à l'heure, Martin Brésis, qui n'écarte ni ne juge personne. C'est ce qu'il a dit, qui au contraire accueille et intègre chacun tel qu'il est. Ça peut aller très loin finalement. Est-ce qu'on sait jusqu'où il est prêt à aller lui-même, Martin Brésis?
Jusqu'où il est prêt à aller lui-même, ça on sait pas. On a vu qu'il était prêt à faire des petites révolutions. Ça, si vous voulez, c'est un autre enjeu. Il faut aussi prendre en compte les enjeux un peu politiques en fait de ce qui est en train de se passer. Ses convictions intimes. On sait que, voilà, c'est vrai que là aussi la différence par rapport avec Benoît XVI, c'est que c'est un pape qui vient d'Amérique du Sud. Si vous voulez, il y a quand on est en Europe, il y a une image un peu des papes théologiens, justement, un peu plus proche du dogme. Mais donc on voit bien que lui, il irait plutôt vers une église plus populaire. Donc on sent qu'il est prêt. En plus, le mot révolution n'est pas à des significations très fortes pour l'église en Amérique du Sud. Donc, lui, je pense qu'il serait prêt à faire des petites révolutions. Après, on ne sait pas au fond de lui-même ce qu'il pense, par exemple, sur la question de l'homosexualité. Mais il y a aussi vraiment des... Alors, en dehors de la pression interne de l'Église catholique, mais vraiment, pour le coup, là, il faut quand même mentionner qu'il y a des personnes homosexuelles, et plus particulièrement chez les catholiques, et plus spécifiquement dans le clergé. Alors ça, c'est une question encore plus difficile, mais déjà, ne prenons que les personnes homosexuelles catholiques qui vivent une vraie souffrance. Alors quand l'Église leur dit « mais nous sommes prêts à accompagner votre souffrance », ils leur disent « oui, mais non, ça ne suffit pas, parce que vraiment, on vit une véritable souffrance qui demanderait d'autres réponses ». Donc là, il y a une tension qui est en jeu. A priori, il ne va pas y avoir de révolution de ce point de vue-là. La révolution, elle peut venir de la base. On sait aussi qu'il y a des prêtres, certains évêques, qui prennent quelques libertés avec le dogme, et quand ils voient que c'est pour le bien de la communauté catholique locale. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Si l'Église est très hiérarchique et autoritaire, il y a aussi certains qui, justement, de façon pastorale, sont à l'écoute des souffrances locales. Après, le pape, actuellement, il est aussi face à une tension interne au sein du Vatican. Il a déjà bouleversé pas mal de choses. On se souvient des propos qu'il avait eus qui étaient très critiques sur le fonctionnement même du Vatican, où il leur demandait, notamment aux cardinaux, de ne pas être des fonctionnaires de l'Église. Donc justement de se comporter plus comme des pasteurs, et actuellement, et notamment suite à l'encyclique Laudato Si sur l'écologie, qui était une encyclique très politique, et là aussi c'est quelque chose à noter, c'est que étant d'Amérique du Sud, le pape François est beaucoup plus sensible aux questions économiques et sociales, que l'on retrouve d'ailleurs dans le document de travail sur le synode pour la famille. C'est étonnant, mais il y a des questions l'économie et le social sont très fortement présents. Il a plus cette fibre-là que d'autres évêques qui ont la fibre plus familiale, et donc notamment, et plus particulièrement depuis Laudato aussi, mais aussi depuis le début et la préparation de ce synode-là, il est face à une opposition ouverte, flagrante, de deux pôles qui se rejoignent. Un qui est aux États-Unis, mené par le cardinal Burke, qui a dit explicitement, qui a publié une supplique au pape pour qu'il s'en tienne sur le synode sur la famille au dogme sans transiger. Et à l'Afrique, où une fronde menée par le cardinal guinéen Sarah, tous les deux connaissent très très bien le Vatican, sont à Rome depuis plusieurs années, ils ont eu ou ont des fonctions très importantes au sein du Vatican. Donc là, il y a une fronde interne.
D'accord.
Et donc lui, il faut qu'il fasse avec ça aussi, et donc il est obligé aussi de faire des concessions.
Alors, on reviendra sur cette tension entre conservateurs et réformateurs. Je voudrais avoir l'avis de Pierre-Yves Péqueux sur le côté révolutionnaire, entre guillemets, progressiste du pape, concernant la famille, puisque c'est notre sujet ce soir.
Je pense que le pape, d'abord, veut que la famille soit aimée et respectée dans les situations diverses à travers le monde. Nous avons le schéma chez nous d'un homme, une femme et des enfants sur une famille nucléaire relativement resserrée. La famille africaine n'est pas la même. Et la famille africaine a vraisemblablement d'autres questions. Je pense, entre autres, si vous avez pu regarder ce que les évêques du secrétariat des conférences africaines et de Madagascar ont préparé pour le synode, il y a un certain nombre de points sur la polygamie, un certain nombre de points sur le respect de l'aîné et des personnes âgées, le respect de l'enfant et des enfants, et avec toute la question des enfants des rues, des enfants soldats. Et la famille éclatée, dans le cadre d'une famille trop large, ou très large, est quelque chose que nous cernons mal, nous, Européens. Mmh. Or, ce qui est posé à travers ce synode, c'est aussi l'écoute de chaque continent. Chaque continent avec ses particularités. Qu'il y ait un dogme sur la famille et sur le mariage ne me dérange pas. Qu'il y ait un regard qui prenne en compte les cultures et qui prenne en compte les continents est quelque chose qui doit interroger l'Église. Mmh. On ne peut pas rester sur simplement un regard monolithique.
Mmh. Ça va être difficile quand même de prendre en compte toutes les configurations, notamment celles que vous évoquez d'une famille polygame, par exemple. Je ne pense pas que l'Église catholique soit prête à accepter cette perspective-là, si ?
Je ne pense pas qu'elle va l'accepter, c'est pas le mot. Mais il est clair qu'aujourd'hui, des polygames qui demandent le baptême, eh bien, est-ce qu'il faut vraiment leur demander de répudier deux femmes sur les trois qu'elles ont? Oui. Faut-il créer une injustice pour leur refuser le baptême? Oui. Alors, je crois qu'on est devant une question qui nous dépasse, nous, Européens.
Oui. Et qui nous amène à un autre sujet de contentieux qui semble peut-être plus facile à régler, qui est celui de l'accès au sacrement des divorcés remariés civilement. Pourquoi cette reconnaissance-là est si difficile, Martin Brésis ?
Oui, bah parce qu'on est dans cette distorsion toujours entre le dogme et la réalité. Et que c'est vrai qu'aussi que sur certains points du dogme, si vous voulez, dans une institution aussi hiérarchique, pyramidale, on se dit que si on commence à céder sur un point du dogme, vous voyez, toute la pyramide va s'effondrer. Donc il y a aussi cette difficulté parfois à franchir un pas, alors même qu'il peut y avoir une conviction générale. Je serais persuadé que si vous faisiez un sondage parmi les évêques français sur cette question-là, il est possible qu'on puisse avoir des surprise.
Mmh. Dans quel sens ?
Dans un sens positif.
Ouais, d'accord.
Et d'ailleurs, je me souviens d'un évêque français, Monseigneur Armand Le Bourgeois, qui avait ouvert la voie dans les années 70. Il avait lui-même, en tant qu'évêque, autorisé ses prêtres, il les avait quasiment incités, mais de façon très, pas du tout fantaisiste, à faire en sorte que les divorcés remariés puissent communier. Je me suis replongé dans les archives, d'ailleurs, il les avait même, figurez-vous qu'à l'époque, les catholiques divorcés étaient interdits de funérailles religieuses catholiques. Et lui a été de ceux qui ont permis... Donc, là, parfois, ça peut aussi avancer par la base. Et j'ai appris aussi, j'avoue que je ne savais pas, qu'en 1980, il y a eu un synode des évêques sur la famille qui avait quasiment, parmi les conclusions, avait quasiment dit qu'il fallait vraiment faire un pas décisif en faveur des divorcés remariés. Après, si vous voulez, il y a eu aussi une église qui, pendant plusieurs décennies, a eu comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, un certain Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, qui vraiment, sur ces questions-là, ne voulait absolument pas plier. Donc, il y a eu un resserrement du Vatican sur ces questions-là, qui a fait que vraiment, on n'a pas pu avancer, alors qu'à la base, ça avance. Et c'est vrai qu'une des nouveautés, un peu, et un des charismes, un peu, du pape François, c'est que, en fait, ce fonctionnement autoritaire et hiérarchique de l'Église, il a envie, cette pyramide, un peu, il a envie de l'aplatir un peu, de faire un peu plus vivre les choses à la base. C'est aussi un tropisme, si je puis dire, sud-américain, là, où il y a les communautés locales et sont très importantes. Donc, on sent bien qu'il y a une progression dans les discours. On sait que dans les épiscopats, les choses, les mentalités avancent. Maintenant, c'est vrai que voilà, il y a ces enjeux de savoir, en effet, par exemple, ça, c'est un véritable enjeu que vient d'évoquer, Seigneur Péqueux, c'est, quelle vision, ces deux visions occidentalo-centrées et, on va dire, venant des pays du Sud, d'Afrique ou d'Asie, où la famille n'est pas du tout la même. Il y a cet enjeu-là qui va se jouer aussi.
Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce synode... Pardon, vous vouliez intervenir, Pierre?
Oui, je pense que dans la ligne de ce que vous venez de dire, la Bible regorge d'histoires de familles tourmentées, de familles embrouillées, et dont la relation à Dieu est une relation qui va essayer de les reconstruire, qui va essayer de faire que des liens nouveaux soient possibles. Mais je pense que plus on se plonge dans la Bible, plus on peut deviner qu'aujourd'hui quelque chose est possible.
Est-ce que le synode peut être aussi réformateur que le pape le souhaite, vous pensez?
Ben, il a dit, entre autres, une chose hier, c'est qu'il a dit que c'était ni un parlement, ni un lieu de doctrine. C'est bien un lieu de recherche ensemble pour le bien des hommes et des femmes d'aujourd'hui, d'une pastorale. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'ils nous font entendre. Nous ne sommes pas devant un Sénat qui va voter et va l'emporter parce qu'il y aura 51% des voix. Mais on est devant un lieu où des hommes vont essayer, éclairés par des experts, des théologiens et des témoignages, parce que il y a eu quand même quelque chose d'assez merveilleux. C'est tout ce qui s'est réalisé dans la préparation du synode, dans tous les diocèses. En France, c'est plus de 3000 pages qui ont été reçues de réactions, de travail, de gens qui se sont interrogés avec les questions préparatoires au synode. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font de l'intérieur et de la base. Mmh. Et je crois que c'est ça qui va remonter.
Et justement, il faut faire attention aux espoirs déçus, parce qu'en effet, cette méthode est novatrice et c'est parfois, les catholiques se plaignent un peu justement du côté autoritaire de l'Église, où ils sont pas assez entendus. Là, on les a vraiment écoutés. En effet, il y a eu un travail exceptionnel d'écoute et à la base, mais qui a fait émerger une parole qui demande, hein, globalement, est-ce que l'Église soit un peu plus ouverte et accueillante, sans vouloir de révolution. Donc la demande, elle s'est exprimée, elle est là, il y a une attente, il va falloir quand même satisfaire aussi cette attente.
En filigrane de ce que vous dites d'ailleurs tous les deux, il y a cette tension, on va dire, entre les réformateurs et les conservateurs. Vous êtes d'accord avec Pierre-Yves Péqueux pour admettre que cette fracture-là recoupe des zones géographiques, les différences culturelles, économiques entre le nord et le sud de la planète?
Après, je ne sais pas si les deux mots de progressiste et conservateur sont appropriés pour définir ces zones-là. De fait, il y a des façons de vivre différentes. Par exemple, si vous voulez, on peut dire que sur les questions familiales, il peut y avoir dans le sud des points de vue plus conservateurs, mais par exemple sur les questions politiques et sociales, ils sont beaucoup plus progressistes. Vous voyez. En revanche, c'est vrai qu'il y a des questions culturelles, mais là aussi, le pape est malgré tout très à l'écoute de ces questions-là. Après, il y a vraiment il y a aussi un gros point sur lequel, pour l'instant, ça n'avance pas, mais parce que c'est un point énorme de doctrine, c'est que quand vous parliez des familles parfois trop larges en Afrique ou trop nombreuses, il y a un problème démographique terrible. C'est-à-dire que si vous voulez faire en sorte que la vie des familles dans les pays pauvres, les pays du Sud, se passe plutôt mieux ou moins mal, il faut prendre en compte la surpopulation. Pour prendre en compte le problème de la surpopulation, il faut prendre en compte la question, les problèmes liés à la contraception et à l'avortement, indubitablement. Et ces questions-là, pour l'instant, elles sont fermées. Et il va falloir aussi un jour ou l'autre qu'elles se posent si on veut vraiment être à l'écoute de ce que vivent les peuples de ces régions-là.
J'ai le temps de vous faire réagir, mais en 15 secondes, Pierre-Yves Péqueux, sur cette question.
Je pense que aujourd'hui, la vraie question, c'est l'éducation.
Oui.
Et que la vraie question dans le Sud, c'est la possibilité d'une formation et d'une éducation dès le plus jeune âge. Et je crois que c'est une autre façon d'aborder la question de la démographie.
Bon, allez, restons-en là. On va suivre avec intérêt ces 3 semaines, je crois, de synode. Merci à tous les deux, hein, Pierre-Yves Péqueux, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques, et puis Martin Bressy, qui est journaliste au Monde des religions, dont je rappelle que le dernier numéro a pour thème les sages de notre temps. Merci également à Florence Ponce, Cécile Périllard, qui ont préparé, réalisé cette émission, Gérard Perrault à la documentation. Demain, mardi politique, Anis Al-Jabri reçoit Benoît Hamon. Mercredi, on se demande s'il est possible de mener une guerre efficace contre les passeurs de migrants en Méditerranée. Bonsoir à tous, un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.